Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio. Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec la garçonnière de la critique où ont pris place Fabienne Pascaud de Télérama, Armelita, Armel Elio du Figaro, avec Vincent Josse, notre ami de France Inter, de l'excellente, merveilleuse récréation tous les jours sur notre chaîne à 16h. Avec Jacques Nerson, ça va Jacques ?
Très bien.
De l'Obs, pour parler ce soir des pièces et textes de Marine Diaille, Jean-Paul Dubois, Christophe Pellet, Stefano Massini, Robert Cantarella, Alexis Michalik, Billy Wilder, vous l'aviez compris. Alors dans le courrier, plein de réactions variées, après le débat houleux, n'est-ce pas Armelita, n'est-ce pas Fabienne, sur la règle du jeu de Renoir, réinventée à la Comédie Française par Christiane Jataï. Alors c'est un peu comme la bataille d'Hernani, il y a les pour et il y a les contre. Alors parmi les pour, le spectacle hein, de Jataï, Linoxy Loussignan, je suis étudiante en théâtre à Sancy et j'aimerais remercier Fabienne Pascaud d'avoir vivement défendu la mise en scène de Christiane Jataï. Je pense que ce travail généreux donne un sacré souffle à la Comédie Française. Ouf, on respire un peu. Salle Richelieu, il faut être sacrément blasé pour ne pas trouver ça intéressant. Même sentiment de François Dugy-Pina qui dit que cette adaptation de la règle du jeu fait réfléchir à ce qu'est le rôle du théâtre et en quoi il diffère ou non du cinéma. C'est imparfait, mais soutenu avec conviction par des comédiens remarquables. Et n'en déplaise à Saint-Armel, ce n'est ni bête ni arrogant et certainement pas nul. Philippe Couteillas juge que ce sont les parties filmées de la pièce qui sont les plus réussies dans cette séquence tournée dans les salons du théâtre. Christiane Jataï a su montrer l'imbrication des intrigues amoureuses qui vont se dénouer au milieu de l'insouciance joyeuse et mondaine de la ronde des invités arrivant au château. Et puis, il y a les contres. Comme Catherine de Paris, je suis allé voir la règle du jeu à la Comédie Française. Les qualificatifs me manquent pour qualifier ce spectacle lamentable, pathétique, nul, idiot, vide de sens, incohérent, inepte. Ce n'est même pas scandaleux ou choquant, juste bête et à oublier très vite. Cette farce ridicule est inquiétante sur les choix de M. Éric Cruff, colère partagée. Par Jean Delbert de Melun, vu la règle du jeu, c'est un massacre à la tronçonneuse. Pauvre Renoir et pauvre Comédie Française qui est devenue un mauvais cabaret où en plus on projette un film nullissime. Et Régis Joannet de Tours, après les 26 minutes de vidéo réglementaire, un drone s'élève au-dessus de la scène. Je me dis, ça y est, la pièce va prendre de la hauteur. Ben non, ça ne sert à rien. Comme une sorte d'indifférence pour cette pièce foutraque, genre grand guignol et pas drone du tout. Où aviez-vous la tête, chère Fabienne, lors de la représentation ? Je ne me suis posé aucune question alors que tant de pièces m'ont bouleversé et transformé. Remerciements à transmettre à Armelita pour ses avis qui témoignent d'un bon sens éclairé. Philippe Chavernac a vu Bankable, au Théâtre Montparnasse avec Laurent Deutsch, résultat fade, plat, une intrigue faible, aucun cynisme, bref, ça ne fonctionne pas. Alain Trottmann, tiens, ça c'est pour Jacques, de Paris, fait partie des spectateurs qui ont fait une ovation à la fin des 4 heures d'une chambre en Inde. Mnouchkine est parti du désarroi qui nous saisit devant un monde absurde, violent, qui marche vers l'abîme avec sa troupe. Mnouchkine fait vivre sous nos yeux cette sensation obsédante en y ajoutant de l'humour, du courage, de l'audace et du rêve. Évidemment, Jacques Nerson n'a rien senti ni compris à tout cela. Et pour finir, Jean-Pierre Marquet fait remarquer au même Jacques Nerson que non, la cantatrice chauve et la leçon ne possèdent pas le record de longévité du théâtre avec leurs 60 ans d'ancienneté. À Londres, la pièce d'Agatha Christie, La souricière, que j'ai traduite, nous dit Jean-Pierre Marquet, se joue dans le même théâtre depuis 52. Vérifié, c'est très facile. Oui, j'ai vérifié sur Wikipédia. Effectivement, la pièce a passé le cap des 25 000 représentations en 2012. Alors ça, c'est bien quand même, Wikipédia, permettant ainsi au petit-fils de la dramaturge de devenir millionnaire en recevant les droits de la pièce pour cadeau d'anniversaire de ses 9 ans.
Ah, c'est merveilleux. Elle était vraiment bien, cette Agatha.
Oui, enfin, elle était morte, hein, là.
Oui, mais c'est bien.
Mais quand même, le gamin de 9 ans, il est millionnaire. Donc c'est la souricière.
Bon, ben voilà.
Ben là, oui, bon, on ne le savait pas, c'est vrai.
Ben c'est d'où l'intérêt de participer au Masque et la Plume. on commence, à moins que vous vouliez dire un mot, non, Armel ?
Je voudrais dire juste une petite chose. Est passé sur Arte, il y a une quinzaine de jours, Les Fausses Confidences tournées par Luc Bondy. Il les a tournées, c'est son dernier travail, c'était sa... pas de sa dernière mise en scène, il avait repris Les Fausses Confidences avec Isabelle Huppert et il a tourné dans le théâtre, dans l'Odéon, et la cuisine qu'il imaginait pour la maison de Araminte Isabelle Huppert, c'est la cuisine de La Règle du Jeu. Et je me dis, bah tiens, peut-être que mon amie Christiane Jataï, elle a trouvé l'idée là, parce que c'est frappant, et j'avais complètement oublié en voyant La Règle du Jeu, que Luc Bondy, c'est son dernier travail, a fait exactement ça, et en se référant explicitement à la cuisine de La Règle du Jeu. Bon, alors, c'est
alors,
tout ce que je voulais dire.
Après justement La Règle du Jeu, ou alors Les Damnés, qu'on a vu l'année dernière aux Français et à Avignon, après Scène de la vie conjugale, encore un film qui devient une pièce. Ça devient d'ailleurs une étrange mode au théâtre que vous allez m'expliquer. Et là, il s'agit de La Garçonnière, le film de Billy Wilder, scénarisé par le génial Diamond, qui était sorti en 1960, avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Jack Lemmon, c'était Baxter, dit Buddy, ou Brin d'amour, employé dans une compagnie d'assurance new-yorkaise qui, par carriérisme, par opportunisme, mettait sa garçonnière à la disposition de ses supérieurs, parmi lesquels le boss, trop content évidemment de l'utiliser, pour y retrouver la liftière Shirley MacLaine, que Buddy ne détestait point. Le film racontait comment et pourquoi Brin d'amour allait parvenir à ses fins. Alors, au Théâtre de Paris, l'adaptation du film est signée Judith Elmaleh et Gérard Sibleras. La pièce est mise en scène par José Paul dans un décor cossu, hein,
très cossu
même, très cossu, d'Edouard Logue, avec Guillaume de Tonquédec, Fais pas ci, fais pas ça, en Baxter. Claire Kem dans le rôle de la jolie liftière et Jean-Pierre Lory dans celui du patron cynique qui ne veut pas divorcer. Je n'en dis pas davantage. Vincent ?
Moi, je suis contre
contre
le fait d'avoir adapté au théâtre ce film merveilleux de 1960. J'ai retrouvé une critique du Monde quand le film sort et qui disait « On retrouve ici toute la saine méchanceté de Billy Wilder ». Et c'est vrai qu'elle existe dans le film et qu'une fois devant nous sur scène avec cette adaptation de ce duo que tu viens de citer, moi, je trouve qu'on ne retrouve absolument pas cette saine méchanceté et qu'on a un théâtre, encore une fois, comme parfois le privé peut le faire, un théâtre qui est daté.
Mais t'as pris aucun plaisir ?
Aucun, non.
Ah, aucun ?
À m'y donner, qui fait des filles des caricatures, elles dandinent, elles aguichent.
Et c'est l'époque, hein ?
C'est l'époque, mais il faut adapter peut-être à une autre époque ou essayer de faire quelque chose de complètement différent, de casser les codes du film. Mais ce n'est pas le cas du tout. Là, on a quelque chose de très plat. Alors, les deux comédiens principaux sont très bons comédiens. Kem existe en liftière, qui d'ailleurs n'existe plus. Je ne crois pas qu'on ait encore des liftières. Donc
ça nous manque.
Ben,
oui, c'est pour le retour des liftières.
Mais ça ne nous manque pas sur scène. C'est-à-dire que sur scène, on se dit, mon Dieu, comme c'est vieux. Pourquoi rester dans la même époque, dans le même jus ?
On n'était pas rentré du tout dedans.
Et sans la moindre méchanceté.
Mais ce n'est pas vieux, mais ça représente un monde qui est
démodé.
Sur les années 50.
Ouais.
Mais
ce n'est pas
que la question que ce soit démodé. Dans les années 50, ce n'était pas les mêmes
mais
modes
qu'aujourd'hui.
Mais
quel est l'intérêt de le monter sur scène
aujourd'hui ? C'est absurde. On pourrait dire à ce moment-là, Molière, c'est démodé parce que ça se passe...
Non, il y a des échos dans une pièce de Molière. Il
y a beaucoup d'échos dans la veillerie.
On va parler successivement.
Je pense que c'est un problème de parti pris et d'adaptation, et que l'adaptation, l'adaptation est ras de terre, quoi. Voilà,
donc,
on est dans quelque chose
tout.
D'extrêmement plat et qui n'a pas d'intérêt théâtralement.
Pas du tout.
Ça vous a plu, Jacques ?
Beaucoup. C'est un très joli spectacle. Je dirais pas que c'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu de ma vie, mais c'est un divertissement intelligent. Et c'est un divertissement dépourvu de toute vulgarité, ce qui n'est pas si fréquent. Et d'autre part, il y a ce que Billy Wilder voulait dire du monde américain, ça passe parfaitement. D'ailleurs, c'est tout à fait justifié. Vous savez que Billy Wilder avait voulu d'abord écrire cette histoire sous forme de pièce.
Théâtre,
voilà.
Théâtre,
et puis, il a reculé parce qu'il n'arrivait pas à imaginer comment il arriverait à rendre le monde des bureaux, l'immensité des bureaux, des immeubles, etc., ce qui est très important.
Et
il avait raison. Eh ben non, il n'a pas raison, puisque je trouve que José Paul a trouvé la solution grâce au décor d'Edouard Long, et le spectacle a absolument une fluidité comparable au film. Alors, je ne dis pas que le spectacle est meilleur que le film, mais je pense que c'est un spectacle qui, à côté, n'enlève rien au plaisir qu'on a de voir le film. Au contraire, ça redonne envie de le voir, et ça raconte, encore une fois, quelque chose de très fort sur le matérialisme américain.
Mais le film le raconte mieux, Jacques. Ben,
La comparaison n'a pas lieu d'être. C'est pas obligatoire de comparer. On a, d'une part, un film qui est effectivement un chef-d'œuvre, mais on a un très joli spectacle, très bien joué, avec un public enchanté, qui rit, et avec un rire de bonne aloi, parce que ce qu'on montre et ce qu'on raconte est intelligent, le texte est bien, les acteurs sont très bien. Vous n'avez pas parlé de Jean-Pierre Loritz qui joue le méchant.
Non, on l'a cité.
Mais on n'a pas dit à quel point il était formidable.
Ah, c'est le patron.
Là encore, il joue sans caricature. Vous parlez de caricature, mais pas du tout.
Le personnage
du patron n'est pas du tout caricatural.
Parce que les années 50, c'est ça, jeune.
Alors, Armel.
Non, je suis complètement d'accord avec Jacques. Évidemment que ce n'est pas le spectacle de l'année qui nous fera relever la nuit pour y penser et tout ça. Mais vous avez cité, vous l'avez qualifié de génie, et c'est vrai, Diamond, co-scénariste de Billy Wilder, qui était un homme exceptionnel.
L'auteur de la réplique.
Voilà.
Et qui, Nobody is perfect. Nobody
qui construit perfect. Ça très très bien. Alors évidemment que ça peut paraître daté pour quelqu'un d'aussi jeune que vous, Vincent, mais moi j'ai connu cette société-là.
Arrêtez de laisser accroire aux auditeurs que Vincent est jeune. Il est plus jeune depuis très longtemps.
16 ans, c'est pas si jeune que ça.
Bon, bref.
Tout ça parce qu'il fait la récréation, évidemment.
Franchement, ça ne prétend pas être autre chose qu'un divertissement.
Oui.
Et
le film n'est pas un divertissement.
C'est un divertissement populaire dans le meilleur sens du mot.
Mais bien sûr,
c'est un divertissement.
Heureusement que si, Billy Wilder.
C'est pas brèche.
Juste le critique de l'Amérique qui n'apparaît pas ici.
Elle apparaît dans la pièce aussi.
Fabienne.
Alors, moi, je ne me souviens pas du film que j'ai vu, donc je suis arrivée vierge et le spectacle ne m'a pas du tout intéressée. Vraiment, je devais être la seule de la salle à ne pas rire, je l'avoue.
Oui, mais nous n'y étions pas le même soir.
Moi, j'ai trouvé que c'était mou, c'était faible, la dénonciation de la veulerie masculine. Finalement, c'est pas si démodé que ça, contrairement à ce que je disais, parce qu'il fait du R&B. Il loue son appartement, donc comme peuvent le faire des gens d'aujourd'hui. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, à part le décor qui est très beau d'Edouard Logue, mais une fois qu'on a compris le système, on s'en lasse assez vite, et ça revient de manière répétitive, j'ai trouvé les comédiens très, très mauvais.
Très mauvais.
Ah oui, très mauvais. Mais Guillaume Le Tonguédec, c'est une marionnette. Il joue à la manière brechtienne, mais ça correspond pas du tout au spectacle.
Tonguédec brechtien.
Ah oui, on voit qu'il joue en permanence. On les voit jouer, on les voit s'agiter comme des marionnettes. Ne me parlez pas de Jean-Pierre Lory, c'est encore pire.
Oh non.
Quant à Claire Quin. Elle est ravissante, charmante, jolie, avec des dents blanches resplendissantes, mais je préfère une bonne comédienne qui a les dents jaunes. Enfin, c'est épouvantable.
Mais je vois pas l'intérêt du...
On va tweeter.
Écoutez, non. Moi, franchement, c'est une gravure de mode bien habillée, mais je trouve qu'elle joue mal.
Moi, je suis pour le retour des dents jaunes aussi.
Tu penses à qui, Fabienne ?
Non, est-ce qu'on pourrait ajouter une toute petite chose ?
Est-ce qu'on pourrait élever le niveau de la critique de théâtre ?
Est-ce qu'on pourrait ajouter
une toute petite chose ?
Le temps presse, on a beaucoup de choses à voir.
C'est à quel point Billy Wilder arrive à parler d'un personnage qui accomplit des actes relativement blâmables sans le condamner et sans nous faire de discours moralisateur. Je trouve
ça
génialement
écrit. Non, mais dans le spectacle, il n'y a rien. Il y avait peut-être ça dans
pas
le film,
tout,
mais dans le spectacle,
dans le spectacle,
il n'y a rien.
Non.
La Garçonnière, ça se joue donc au Théâtre de Paris, d'après les films de Billy Wilder, et avec Guillaume de Tonquédec et Claire Kem. Le Casse-Schneider, c'est le roman que vous avez forcément lu de Jean-Paul Dubois, paru en 2011, que Thomas Vincent avait porté à l'écran l'an passé, alors sous le titre un peu différent de La Nouvelle Vie de Paul Schneider avec Thierry Lhermitte dans le rôle titre. Cette fois, c'est Didier Besas qui signe l'adaptation du roman et le met en scène au Théâtre de l'Atelier avec Pierre Arditi et autour de lui Sylvie Debrun dans le rôle que tenait Géraldine Pellas au cinéma, Charles Rogébourg, Morgane Foucault, Thierry Gibault, Didier Besas en avocat et Faute de Meute, qu'on avait dans le film évidemment, l'unique chien Fox, mais qui a l'air assez sympathique.
Oui.
Hein ? Non, c'est vrai ? Oui. Paul Schneider, je le rappelle, a réchappé à Montréal du terrible accident d'ascenseur où sa fille a péri. Il n'a plus goût à rien, il ne supporte plus. On comprend son épouse très tyrannique. En plus, elle a un amant. Et il ne trouve son équilibre qu'en promenant les chiens des autres. Pendant ce temps-là, la petite famille ultra-performante complote dans son dos pour toucher dommages et intérêts qui permettront évidemment de payer les études des garçons. Bah, seulement voilà la procédure, Paul. Il s'en fout, il est bien au-delà de tout ça, on peut le comprendre. Alors le bouquin était très, dans mon souvenir, très mélancolique. Le film, qui n'était pas raté, je trouve, aussi entre la... Ne portez pas un jugement sur le cinéma, Jacques. Vous ne connaissez
j'ai
rien au
film.
Cinéma.
Hein ?
Donc je vais jusqu'au bout de ma phrase. Le film oscillait entre la noirceur et la drôlerie. Quant à la pièce, Bezas en dit que c'est assez juste le théâtre d'un complot du monde vertical contre un homme couché. L'homme couché, c'est Arditi, qui raconte, alors je pense que c'est une erreur, son drame à la première personne du singulier, mais que j'ai rarement vu aussi douloureux, enfin dans un emploi, en tout cas auquel il ne m'avait pas habitué. Armelita.
C'est très mélancolique, quelque chose ne prend pas et je ne sais pas expliquer quoi. Je pense qu'il y a un problème de décor déjà,
Il est moins luxueux,
d'enfermement.
Côté de Paris. Hein.
Je suis incapable d'expliquer ce qui ne va pas dans ce spectacle. C'est peut-être que le soir où je l'ai vu, peut-être que Arditi était trop dans la mélancolie, trop dans l'accablement. Il était voûté, il était vaincu. Moi, j'ai un souvenir du livre, je ne l'ai pas relu. Hein. Je n'ai même pas mis le nez dans le livre.
Ah, le livre était vraiment beau.
Oui, mais il était acerbe, acide.
Oui, mais très mélancolique
oui,
aussi.
Oui, mélancolique hein. aussi. Et puis, je trouve qu'on comprenait mieux la folie de cet homme qui veut expliquer le monde par cette verticalité, par cet ascenseur qui s'est...
Enfin, il veut surtout sortir du drame qu'il a voilà. vécu avec la mort de sa fille.
Et dans mon souvenir, dans le livre, on le voyait avec plusieurs propriétaires de chiens qu'il rencontrait, et que là, il y avait des petits éclats de respiration, de cocasserie.
C'est peut-être ça qui manque.
Et là, on n'a rien.
Et c'est ça.
C'est de sortir de ce
voilà.
quasi
huis clos. Je pense, voilà. Mais je dois dire que j'ai trouvé Pierre Arditi absolument formidable. Parce qu'il fait sentir quelque chose de très profondément brisé. Et en même temps, toujours avec quelque chose de narquois qu'il y a dans ce personnage. Voilà.
Fabienne.
Moi, je suis de l'avis d'Armel sur le jeu de Pierre Arditi qui m'a vraiment bouleversée, parce que Pierre Arditi...
Mais il est bouleversant.
Il est bouleversant, mais d'habitude, il est plutôt dans la séduction.
Mais il est un peu seul dans la pièce.
Voilà, c'est vrai qu'il est un peu seul. Didier Bezas, c'est assez bien aussi, oui, en avocat humain.
Rôle.
Oui, mais enfin... Et tous les deux, Didier Bezas et lui, on a l'impression, et c'est ça qui est bouleversant, c'est que c'est des hommes qui ont passé la soixantaine, largement, et qu'ils ont lâché. Et qu'ils ont lâché dans toute la fêterie du jeu de comédien, dans tout ce côté marionnette que je dénonçais tout à l'heure chez Guillaume de Tonquédec, et qui sont. Ils sont simplement, ils sont là. Ils ont réussi à intégrer le jeu à leur personnalité propre. Et on voit la hantise de la mort, du temps qui passe, le regret des personnes disparues, des fantômes qui commencent à animer la vie de quelqu'un quand il a passé un certain âge. Et ça, c'est tout à fait formidable. Je suis peut-être un peu sceptique sur la voix off.
Oui,
dont abuse.
Insupportable.
Voilà. Dont abuse DJ Bezas tout le temps.
On n'a pas besoin de ça.
Parce qu'on perd le jeu de Pierre Arditi.
Oui, faut choisir.
Et du coup, voilà.
Entre le livre, la pièce.
Exactement. Et ça nous entraîne dans une espèce d'enfermement et que je ne trouve pas nécessaire.
Jacques.
Le spectacle de Bezas souffre du même travers que le film, c'est-à-dire qu'on perd quelque chose qui doit être très volatile, effectivement, c'est l'humour de Dubois. Et l'humour qui va se nicher
enfin,
jusque
humour,
dans
un
la...
Un humour noir, hein.
Oui. Mais justement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est à quel point, par moment, il montre la cocasserie qui se niche quelquefois dans les moments les plus tragiques, où les gens se mettent à avoir des comportements incohérents. Et il y a quelque chose de drôle, quand même, qui apparaît. Et là, on est uniquement dans la déploration, on est dans un spectacle que je trouve personnellement lugubre. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Lugubre, c'est peut-être beaucoup, non ?
Ah non, je trouve ça... funèbre, du début à la fin. Et je crois que c'est une erreur profonde par rapport à...
Enfin, il sera quand même enfermé par sa femme. Il n'a quand même pas un destin très rigolo,
oui,
le Paul
Schneider. Mais encore une fois, si vous voulez, comme quand Delphine de Vigan parlait de sa mère dans un roman, et elle en montre, alors que c'est un roman extrêmement ému sur cette femme qui devient folle, qui finira par se suicider, en même temps, elle montrait la cocasserie de cette des choses qu'elle pouvait faire, justement, dans la dinguerie la plus profonde. Et là, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment des moments cocasses. Et on devrait rire, et on ne rit pas. Juste une chose, c'est que, effectivement, Arditi est remarquable. Ça, c'est sûr, mais ça suffit
Vincent.
Pas.
Vincent. Je pense qu'on partage tous la même opinion du spectacle. Effectivement, l'humour noir de Jean-Paul Dubois, de cet humour noir, il ne reste que la couleur, quoi. Le noir est pas suffisamment d'échapper vers quelque chose, sinon de solaire, du moins une petite clarté. Je trouve aussi qu'il y a que le jeu est assez inégal. Je trouve que son épouse, Sylvie Debrun, joue pas le même registre qu'Arditi et que du coup on n'y croit pas tellement à ce couple-là.
Besassé bien.
Il faut dire qu'il ne fonctionne pas très bien. Hein.
Mais quand même. Bon. Là, le décalage est assez important. Même Thierry Gibault, qui est un excellent acteur, en fait beaucoup dans le rôle du monsieur qui prête les chiens, en tout cas qui demande.
Le chien Fox, c'est très bien.
Le chien est impeccable.
Ah ben, dès qu'il y a un chien sur scène, les spectateurs.
Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit.
Mais il y a des mauvais chiens.
C'est toujours une erreur de mettre un animal, un enfant ou une flamme sur le plateau.
Les enfants, on les change.
Il ne faut pas mettre d'animaux sur un plateau, c'est une horreur. Parce qu'on ne regarde qu'eux, évidemment.
Parce qu'ils piquent la vedette.
Ils jouent pas. Non, mais ils ne sont pas dans la convention.
Cas, ils
donc ils sont bien meilleurs que tout.
Je suis d'accord, avec Fabienne sur le fait que Arditi a lâché quelque chose de la séduction. Ça, c'est très vrai. Il m'a rappelé un peu Catherine Deneuve au moment où elle fait « Elle s'en va » et où elle montre ses mains d'une dame âgée, etc., où elle accepte de se faire filmer autrement.
Dans le film de Berco.
Il en est arrivé là et c'est très bien de voir Arditi comme ça.
Le cas Snyder, c'est donc d'après Jean-Paul Dubois, et c'est à l'atelier avec Pierre Arditi. Honneur à notre élu, la nouvelle pièce de Marine Diaye, dont je le rappelle, Papa doit manger, est entrée au répertoire du Français. C'était en 2003. Une pièce, donc, honneur à notre élu, qui a été donnée jusqu'à aujourd'hui au Théâtre du Rond-Point. Et elle va être en tournée dans toute la France. D'ailleurs, je vous donnerai à la fin les villes où ça va se donner. C'est mise en scène par Frédéric Bellier-Garcia, qui avait déjà monté Hilda, de la même Marine Diaye. Et c'est avec Isabelle Carré, Patrick Chenet, Jean-Charles Cliché, Claire Cochet, Romain Cotard, Yann Amenecker, Jean-Paul Muel, Chantal Neuwirth, Agnès Pontier, Christelle Tual, grosse distribution. Et Isabelle Carré, c'est notre élue, la mère sans étiquette d'une petite ville portuaire, un modèle de vertu et d'intégrité, oui, je dis bien de vertu et d'intégrité, qui affronte ici l'opposant Patrick Chenet, lequel attend les élections pour faire tomber l'irréprochable élu, quitte à utiliser, je cite, un truc franchement dégueulasse qui a à voir avec le passé de l'élu. Évidemment, on ne saurait imaginer meilleur moment que le grand théâtre de la corruption où on est plongé pour faire jouer cette fable politique de la romancière, je le rappelle, de trois femmes puissantes. Fabienne.
J'étais très très déçue par ce spectacle qui promettait pourtant par sa distribution prestigieuse entre Patrick Chenet et Isabelle Carré. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris ce que Marine Diaye voulait dire. Et c'est ça qui m'a troublée, parce que telle quelle la pièce, ça pourrait tenir en un sketch, c'est-à-dire que l'élu... elle est tellement vertueuse que finalement...
Mais ça, on a du mal à l'imaginer.
Voilà. Après avoir été adorée, eh bien, l'opposant va finir par... qui est aussi fasciné par elle, va réussir à la vaincre et elle accepte tout. Ah. C'est une figure...
Mais faut pas dire...
Non, faut pas tout dire.
Ni comment, ni pourquoi.
Mais on peut pas le dire, puisqu'on ne le saura jamais.
Mais si, c'est une figure totalement christique. On lui donne une gifle, elle tend l'autre joue.
On ne connaît pas la raison.
Mais ce que veut dire Marine Diaye, et c'est là que je trouve même que c'est ambigu, c'est qu'on ne supporte pas. On ne supporte pas la sainteté, on ne supporte pas la loyauté. On ne peut vivre qu'en dans un monde où les gens sont corrompus. Donc finalement,
c'est pour ça que la pièce sort quand même au bon moment.
On a besoin de gouvernants corrompus, nous dit Marine Diaye. C'est à peu près ce qu'elle dit, puisqu'on ne supporte pas. On ne supporte pas la sainteté. Donc c'est pour ça, moi, je trouve ça de la pièce limite réac. Et en plus,
elle va pleurer, Marine Diaye, d'entendre ça.
Ah, pour moi, elle est réactionnaire, indépendamment de ce qu'a voulu dire Marine Diaye.
C'est une démonstration par l'absurde.
Oui, mais tellement par l'absurde, Jérôme, que finalement, elle se prend les pieds dans le tapis. Hein.
Mais elle se prend les pieds dans le tapis parce qu'elle ne sait pas où elle va.
Nerson, puisque je vous ai donné la parole, prenez-la.
Pardon.
Dans un espace gigantesque où les personnages, où les acteurs se prennent les pieds dans le tapis.
Elle me fait l'effet de quelqu'un qui veut raconter une histoire. Une histoire drôle, on en connaît des gens, et qui ne trouve pas la chute. Elle n'a pas trouvé le metteur en scène. Pourquoi, pendant toute la pièce, on nous dit pourquoi cette femme accepte des gens qui, dont on dit que c'est ses parents, puis finalement c'est pas ses parents. On se dit, pourquoi elle les accepte chez elle? Ça, c'est votre interprétation, mais elle-même ne le sait pas, personne ne le sait. Je crois que l'auteur ne le sait pas. Elle s'est lancée dans une histoire qu'elle ne sait pas finir. Il n'y a pas de chute, Jérôme. On ne peut pas révéler une chute, il n'y en a pas, justement. Ça se termine en queue de poisson.
Et c'est ça, Marine Diaye, ses romans, c'est ça. Tu peux jamais trouver une réponse.
Ça ne me convient pas.
Elle
n'a finalement pas grand-chose à dire sur la politique. Je trouve que c'est très, très sommaire, ce qu'on voit là. Malgré la présence, effectivement, de deux acteurs que j'adore personnellement.
Notamment Chesnay, qui est extraordinaire. Il est trop blanc, Chesnay.
Et elle aussi, mais bon, et une mise en scène assez plan-plan, on va dire. C'est un spectacle qui n'a pas grand intérêt.
Vincent Josse.
Moi, je ne trouvais pas inintéressante le questionnement de Chesnay, en tout cas son attitude psychologique ambiguë, où il est dans un désir absolu, dans une admiration sans bande de cette femme, tout en voulant sa place, et il s'en veut de vouloir sa place. Donc, je trouve que son cheminement psychologique est intéressant. Après, il y a plein de choses qui ne vont pas. Pourquoi le metteur en scène commence par une longue scène filmée? Là,
maintenant, il n'y a plus un spectacle.
Mais mortel commence d'ennui.
Je suis pour le cinéma en soi au théâtre. Je ne suis pas réactionnaire par rapport à ça. Oui, là, le cinéma n'est pas utile. Il n'apporte rien. Il y a une profusion de mots dans le théâtre de Marine Diaye qui, quelquefois, est un peu.
Ce qui était le cas déjà de Papa doit manger.
C'était aussi un des problèmes et un des travers de cette pièce-là. Finalement, Hilda a été une pièce plus intéressante, je trouve. Mais elle ne m'a pas, moi, encore convaincu comme auteur dramatique, Marine Diaye. J'aime ressortir complètement troublé de ses romans. Il m'arrive de m'ennuyer pas mal dans son théâtre.
C'est vrai qu'avec ce sujet-là, on aurait pu imaginer presque une bombe. Enfin, je veux dire, avec le sujet qu'elle voulait traiter.
Oui, et la bombe n'explose pas.
Armel ?
Oui, c'est une commande. Est-ce qu'elle avait vraiment envie d'écrire ça? La question se pose quand même. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup de romans, qui travaille,
mais les commandes,
qui donne
des cours. Ça peut donner des chefs-d'œuvre, Armel.
Franchement, non, mais une commande, ça doit s'installer à un moment dans un dialogue entre le metteur en scène et l'écrivain. Bon, on voit bien que Bélier Garcia n'a absolument rien osé dire à Marine Diaye, parce que quand on voit ce qu'il dit, je vous fais grâce à une note d'intention. Ici, la résolution obscure et secrète, un choix mystérieux de l'élu, va à la fois emporter et capter le récit. Elle est ce point obscur où s'accomplit la transmutation mystérieuse du fait divers.
Ça veut dire
que quand on passe commande, quand Barreau passait commande à Camus, ils discutaient ensemble. Alors c'était pas forcément idéal après, mais ça discutait. Même avec Claudel, il discutait. Metteur en scène, c'était pour discuter.
Ça n'a rien donné de formidable.
Non, tel que c'est monté actuellement, mais la pièce est très intéressante.
Mais avec Claudel.
Si. Enfin bref, voilà. Moi, je pense qu'il manque ça. Il s'est retrouvé avec un paquet d'écritures à la Marine Diaye, que moi, par ailleurs, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que Hilda, c'était très bien. Georges Lavaudan a fait travailler des tout jeunes acteurs l'année dernière sur des petits textes de Marine Diaye. Elle est un écrivain, il n'y a pas de doute. Mais là, c'est complètement raté. Et comme l'a dit Fabienne, on s'ennuie. On s'ennuie.
Alors, justement, je peux vous donner les dates de la tournée de Honneur à notre élu de Marine Diaye, montée par Bélier Garcia. En avril, ce sera à Nantes et à Lyon. Et pour les fans d'Isabelle Carré, je signale qu'est sorti mercredi dernier un film qui n'est pas très bon d'ailleurs, Une vie ailleurs, d'Olivier Payon, où elle part pour l'Uruguay avec Ramzy, pour tenter de récupérer son fils que son mari avait enlevé 4 ans plus tôt. Couple improbable. Alors Ramzy joue l'assistant social, il ne joue pas son compagnon. Et voilà. Et donc, elle court beaucoup pour là-bas, en Uruguay. Et ça s'appelle Une vie ailleurs. Mais ceux qui sont, comme Jacques, amoureux d'Isabelle Carré, tu peux aller la voir dans ce pas très bon film.
Je n'y manquerai pas.
Alors que sa pièce Edmond continue, malgré les réticences
de
Fabienne Pascaud, de faire le plein, c'est à guichet fermé encore aujourd'hui, hein.
Au théâtre
du Palais Royal. Alexis Michalik propose déjà un nouveau spectacle, totalement différent, plus intime, au Théâtre 13, intramuros. C'est dans un décor très simple, la rencontre entre Richard, un metteur en scène, c'est Paul Janson, accompagné d'une actrice qui est son ex-femme, Jeanne Arenès, et d'une assistante sociale qui est jouée par Alice Delanxin, qui vient donner son premier cours de théâtre dans une maison centrale. Je vous rappelle que c'était pas loin de la pièce de Xavier Duranger qu'on avait vue il y a quelques semaines. Et donc deux détenus se présentent, Kevin, genre chien fou, et Ange, qui est un homme silencieux qui accompagne son camarade. Une rencontre inspirée d'une expérience, d'après ce que j'ai compris, vraiment vécue par Michalik, mais qu'il a transposée pour en faire un texte imaginaire. Et ça se joue jusqu'au 16 avril. Le texte est disponible, c'est aux éditions Les Signes. Armel.
C'est très virtuose et habile. C'est une pièce qu'il a commencé d'écrire il y a 2 ans. Hein, elle est pas, il ne l'a pas écrite là en quelques semaines après Edmond. C'est vrai que ça part d'une expérience qu'il a vécue, mais sur des petits détails, sur des répliques, sur quand par exemple Ange dit « Moi ça fait 14 ans que je suis là » et que son compagnon de prison lui dit « Ah ben non, ça fait 2 fois 14 ans ». Et c'est vrai, c'est arrivé vraiment, c'est-à-dire qu'il est parti de tout petits détails comme ça sur le temps, qu'est-ce que c'est que ce temps, et il applique sa méthode.
Oui, il faut expliquer.
C'est une méthode.
C'est du Michalik.
Il fait bourgeonner les personnages et les situations. C'est-à-dire qu'on part de cette chose un petit peu basique, un atelier de théâtre avec seulement 2 élèves, 2 prisonniers, et puis chaque...
C'est un surtout, d'ailleurs.
Voilà. Et puis chaque personnage se met à raconter sa vie, et je dois dire qu'il y a une habileté assez étonnante, une fluidité dans cette espèce de manière d'enchâsser les récits, de les tresser. C'est à la fois, ça bourgeonne et c'est tressé. C'est assez... Mais c'est ce qu'il faisait dans Le Porteur d'Histoire, dans Le Cercle des Illusionnistes. Il sait faire ça très bien. Et je dois dire que c'est avec des acteurs...
Alors, je n'ai pas cité Bernard Blancan et Faisal Safi qui jouent les deux détenus.
Et puis, bon, Alice de Langsin, on la connaît parce qu'elle commence à faire pas mal de cinéma en plus. Elle est vraiment bien. Et moi, j'adore Jeanne Arène, que je trouve une actrice extraordinaire, et qui, avec rien, parce qu'il se change, il joue des tas de personnages, les costumes sont sur des portants, et avec rien, il se change. C'est pas du tout prétentieux, ça a été fait pour la réouverture du Théâtre 13, et on passe un temps court et vif.
Oui, moi, je suis pas un fan du travail de Michalik, je reconnais qu'il y a énormément de fans, je vous l'avais dit la dernière fois, j'avais vu des gens sortir, des gens qui avaient à peu près 70 ans, dire ça me fait le même effet que le théâtre de Mnouchkine quand je voyais Mnouchkine quand j'étais toute jeune. Donc il provoque vraiment des choses que j'envie, moi, finalement, chez certains spectateurs, parce que je ne ressens pas tout à fait la même chose. Effectivement, il y a un savoir-faire, il y a une efficacité, comme on dirait d'un scénariste pour la télé, il y a une efficacité scénaristique. Là,
Sens le mec qui va venir.
Oui, j'ai un mais, c'est qu'il a peut-être vécu cette expérience avec des tolards, mais qu'il n'en ressort pas grand-chose et qu'il ne nous dit pas grand-chose.
Non, mais parce que ce n'est pas le sujet.
C'est exactement. C'est pas le sujet, mais c'est quand même un peu le sujet aussi.
Il y a
une volonté quand même de témoigner.
Il raconte une histoire.
Et je trouve quand un Joël Pommerat travaille pendant des semaines avec des femmes qui n'ont pas de boulot à Caen...
Oh, arrête, c'est pas vrai.
Et qu'il en fait un travail théâtral...
Alors, ne me donne pas cet exemple.
Pourtant, j'ai pensé à Pommerat.
Ah ben non,
c'est pas comparable. Si, il y a une chose comparable.
Dans une agilité avec le plateau, dans une façon d'enchaîner comme ça les histoires à la manière des poupées russes, il a un savoir-faire lui aussi, et Pommerat aussi reprend ce savoir-faire. Mais moi, il me touche beaucoup plus parce que peut-être qu'il me raconte davantage de choses. Voilà.
Michalik, pour moi, Vincent, je vois pas ce que le texte nous donne à comprendre.
Je le trouve un petit peu terne, un petit peu fade.
Jérôme, le texte n'est qu'un matériau.
Mais oui, c'est ça, c'est du jeu.
C'est comme les textes de Pommerat. Il faut pas les prendre comme des textes littéraires. Ce sont pas des textes à lire, ce sont des textes à jouer.
Le matériau à jouer, je pense.
Ça raconte pas quelque chose d'anecdotique. Ça raconte la détresse des gens en prison. Ça raconte le cheminement des gens qui c'est pas un scoop, ça ne prétend pas être nouveau. C'est quelque chose d'émouvant, c'est quelque chose d'assez fraternel avec les prisonniers, avec les conditions de vie en prison. Et moi, comme la salle tout entière, j'ai été empoigné et très ému par ce spectacle, parce que Michalik a un talent d'homme de théâtre énorme. Il est homme de théâtre jusqu'au bout des ongles.
Mais tu admires le faiseur de théâtre.
J'admire aussi,
et pas la pièce en soi.
Alors, j'ai été très touché par cette pièce. Et d'autre part, on pourrait quand même signaler quelque chose
d'assez...
Vous
avez fait de la prison, vous déjà.
C'est tous les clichés sur la prison et les prisonniers.
Non, je ne pense pas que ce soit que des clichés. Et certaines personnes qui m'accompagnaient, qui sont déjà allées en prison, n'ont pas trouvé du tout que c'était...
On reconnaît les ressembles, parce qu'il y a toujours avec un tolard.
Bravo, Jacques, bravo.
Il est toujours accompagné d'un ou deux tolards. C'était un avocat, mais qui connaît bien le monde des prisons. Et qui trouvait que ce n'était pas du tout ridicule, ni tout à fait anecdotique. Mais par ailleurs, je voudrais dire que Michalik, quand même, c'est assez formidable. Ce type, est effectivement, il fait 3 triomphes. Et là, il retourne dans un très petit théâtre, salle de 300 places.
Vous n'allez pas nous faire le
mais c'est merveilleux.
Côté exemplaire.
C'est là où
je trouve ça très bien. C'est là où il a démarré.
Et ben il remercie. Ben,
il y a beaucoup de gens qui ne remercient pas et qui ne pensent pas à ça.
Il est bien effet.
Je trouve ça formidable. Et il revient à sa méthode d'écriture première, puisque justement, c'est une écriture debout, c'est-à-dire qu'il a écrit au fur et à mesure des répétitions à partir des improvisations des acteurs, c'est vrai, et il ne l'avait pas fait pour les deux derniers spectacles. Bon. Et là, il y revient, et je trouve que c'est très réussi. C'est un très joli spectacle.
S'il y a des gens qui veulent y aller, il ne faut pas les décourager, hein, mais c'est pas. C'est loin d'être du théâtre d'art, c'est de l'artisanat bien fait, bricolé, avec un portant, comme disait Emmanuel, mais c'est pas. Comme disait Armel.
Alors, ici, il y a Armel
Peut-être qu'elle va m'engager à Télérama,
c'est que quand Ariane Mouchkine, vous Armel, quand Ariane Mouchkine met des portants pour que les comédiens dans la coulisse se revêtissent, et c'est pas la même chose, quoi. Même dans la manière de faire bouger les comédiens pour aller se costumer, c'est sans intérêt, c'est plat.
Eh bien, c'est Intramuros, c'est le nouveau spectacle d'Alexis Michalik. Je vais vous demander d'aller un peu plus vite, d'abord pour parler d'une autre pièce qui est en tournée, qui est Eric von Stroheim, de Christophe Pellé, créée et mise en scène par Stanislas Nordet au Théâtre National de Strasbourg, avec Emmanuel Béart, Thomas Gonzalez, Laurent Sauvage, l'histoire d'une femme d'affaires. Emmanuel Béart qui veut un enfant, autour d'elle deux hommes dont l'un, acteur de film X, dit à l'autre « nous sommes interchangeables » et elle dira d'eux qu'ils sont des chiens. Alors est-ce que vous auriez l'obligeance, les uns ou les autres, de m'expliquer ce que le grand acteur Eric von Stroheim, dont Christophe Pellé dit que c'est un génie pornocrate brisé, vient faire là-dedans?
Alors pornocrate je ne sais pas, mais ce qui est intéressant c'est que c'est un mystificateur. C'est qu'il s'est inventé une existence, il s'est inventé une identité.
Mais c'est
ça qui intéresse
Pellé. C'est le titre de la pièce.
Oui, parce que c'est la référence du mystificateur, c'est tout.
Parce qu'ils sont tous des mystificateurs, les trois personnages, dans leur genre, dans leur couple, dans leur liaison amoureuse, sexuelle, parce que c'est aussi une pièce qui flirte avec la pornographie, c'est ça qui est intéressant aussi.
Ah oui, l'un des personnages est un acteur de film pornographique.
Bon, mais ça vous a plu?
Ah, moi, j'ai adoré, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu.
C'est vrai?
De la rentrée, là, oui. J'ai trouvé que ce texte. Alors, Christophe Pellé, il faut rappeler qu'il avait fait une pièce autour de Pierre Murat, hein, à ceux qui l'ignorent.
Pierre Murat, notre cinéma,
il nous racontera ça. Exactement.
Autour de Pierre Murat.
Oui.
Mais la pièce, la conférence.
Vous la verrez peut-être un jour, et la conférence.
Sa pièce, la conférence, était une pièce formidable, très passionnante.
Il m'a manqué un épisode, là.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est déjà, j'ai été saisi par la mise en scène de Nordet, qui est une mise en scène totalement spectaculaire, qui peut être... Alors déjà, ça se commence avec un grand lyrisme, avec « Mon cœur s'ouvre à ta voix » de Samson et Dalila de Saint-Saëns. Et puis alors, cette image prodigieuse et magnifique de Montgomery Clift et de l'Irémic dans le fleuve sauvage d'Elia Kazan, qui va ponctuer toute la pièce, puisque le décor s'ouvre et se referme en permanence. Cette mise en scène lyrique est magnifique pour une histoire d'amour qui est tellement difficile, mais où tout est inversé, où c'est la femme, là, c'est pas comme dans La maman et la putain, c'est la femme qui a deux amants, la femme qui est maîtresse-femme, qui traite ses hommes comme des chiens, qu'elle dirige, et puis qui veut un enfant, qui va finir par avoir un enfant. Le couple est homosexuel, enfin bref, tout ça est follement compliqué.
C'est pas facile à vivre. Disons.
Ça raconte des choses sur le désir aujourd'hui, sur l'absence de désir. Avec des acteurs que je trouve jouer magnifiquement, moi ça m'a bouleversé.
Bon, Armel, même enthousiasme?
Oui, pratiquement le même. Parce que d'abord, Pellé, c'est un auteur vraiment très intéressant. J'étais contente que Stanislas Nordet, qui est pour moi un des plus grands metteurs en scène aujourd'hui, qui est devenu un metteur en scène libre, qui rompt justement dans cette pièce avec son goût de l'alignement de l'acteur face au public, qui parle au public et tout ça.
Il y a toujours la frontalité, là.
Ben non, beaucoup moins, Jacques, beaucoup moins. Oh. Et puis, il y a ce décor, Fabienne en a très bien parlé, et il y a ce Samson et Dalila qui revient sans arrêt, des très belles projections de peinture, pas de décor. Alors,
Comment ça, pas de décor?
J'avais oublié d'en parler, ça, pour moi. Mais là, ça a du sens.
Depuis le temps, vous vous êtes...
Non, là, ça a du sens.
Pourquoi pas?
Ça a du sens parce que il est le jouet, il est celui qu'on manipule.
Faut-il qu'il soit nu pendant une heure et demie?
C'est lui le Eric von Stroheim.
Ça n'a de sens que parce que c'est un jouet. C'est pour ça.
Oui, parce que il est manipulé par les deux, parce que les deux quand même ils s'entendent. C'est eux le couple.
Et s'il n'était pas nu, on le comprendrait pas.
Pour une fois, ça ne m'a pas gêné.
Je suis ravi que ça ne vous ait pas gêné.
Mais c'est bien que ça choque.
Mais non, mais parce qu'il y a une chose que je voudrais dire. Je voudrais faire comprendre.
Ah, mais moi, j'ai admiré la performance.
Non, mais que je voudrais faire comprendre au public et à nos auditeurs. Il y a une chose, si raconter comme on vous le raconte, quand on vous détaille tout ça, ça pourrait paraître scabreux, impur, délétère, et pas du tout. C'est ça qui est magnifique, ça ressemble à la chanson de Samson et Dalila. C'est pur.
Alors Vincent ne l'a pas vu, Jacques ?
Moi, je trouve que le style de Pelé n'est pas très bon, c'est pas très pur, la langue n'est pas très belle, elle est souvent une langue un peu trop intellectuelle et pas vraiment poétique. Et je trouve surtout que la mise en scène de Stanislas Nordet, contrairement à ce que vous dites, est assez paresseuse. Je trouve qu'il monte tout de la même manière, quels que soient les auteurs. C'est-à-dire maintenant, il a créé... Et d'ailleurs, j'ai bien lu qu'Emmanuel Béart parle d'une méthode, Stanislas Nordet,
oui, effectivement, il y a une méthode.
Feu notre ami Bernard Thomas, critique théâtre, parlait de l'échelle de Nordet.
L'échelle de Nordet pour l'ennui.
C'était pas gentil.
Mais là, je ne me suis pas ennuyé, mais en revanche, je suis frappé de voir qu'effectivement, quels que soient les auteurs, les comédiens jouent frontalement, ne se regardent pas ou pratiquement pas, mais jouent en direction du public.
Pratiquement
tout le temps. Et surtout que ce texte qui n'est pas poétique, qui n'est pas du Claudel, qui n'est pas là, est proféré comme si c'en était, en prononçant toutes les syllabes, et c'est d'un ennui à crever cette façon de. Je suis désolé, moi j'aime pas qu'on récite au théâtre. Je pense qu'il est malheureusement récité, c'est entièrement la faute de la méthode Nordet.
La nudité ne vous a pas
choqué. Je m'en fous de la nudité, mais complètement alors.
Mais c'est pas du tout la méthode Nordet. Allez, ce qui est
Eric
étonnant, c'est le lyrisme.
Stroheim, Christophe Pellet.
Il n'y a rien d'étonnant.
C'était à Strasbourg. Ce sera du 14 au 25 mars au Théâtre National de Bretagne, à Rennes. Du 4 au 6 avril au Théâtre du Gymnase. Donc voilà, c'est encore une pièce qui voyage. Allez, plus rapidement, je croise en un seul dieu avec la seule Rachida Brakni sur scène, un spectacle de l'Italien Stefano Massini, dont on avait, en tout cas moi, beaucoup aimé Chapitre de la chute, la saga d'Eleman Brothers. Je sais pas si vous l'aviez vu au Rond-Point, qui était pour le coup, un spectacle sur l'économie contemporaine très accablant. Et là, c'est mis en scène au Théâtre du Rond-Point par Arnaud Meunier. C'est jusqu'au 9 avril, donc il faut faire vite. Brakni, qui joue à la fois une étudiante palestinienne, une israélienne de gauche qui enseigne l'histoire juive et une soldate de l'armée américaine qui est envoyée en Israël pour seconder la police. Et tout ça un an avant un attentat qui va se produire à Tel Aviv. Trois voix donc, enfin, trois monologues intérieurs plutôt, pour un seul drame, un seul crime. Alors, le propre de cette histoire, c'est qu'on connaît l'épilogue, évidemment, dès le début de cette pièce, dont d'ailleurs le titre italien était « Je crois en une seule haine » et pas un seul Dieu. Vincent ?
Je trouve ça beau. Je trouve que cette voix, ou que ces trois voix, qui n'en font qu'une, puisqu'elle est, comme tu l'as dit, incarnée par Rachida Brakni, sont touchantes. J'ai eu peur que ce soit un petit peu lisse, pour tout te dire au départ, et puis je me suis laissé emporter par la tragédie de chacun des personnages, notamment deux d'entre elles, bien sûr, l'israélienne et la palestinienne. J'aime beaucoup le personnage de l'israélienne qui doute et qui va encore plus douter
avant cette tragédie. C'est un peu plus théorique, je trouve, que les Lehman Brothers.
Ah oui, oui, beaucoup moins vivant.
Mais il y a une délicatesse extrême à la fois dans l'écriture et, je trouve, dans la mise en scène. Je trouve que Arnaud Meunier essaie de ne pas la ramener. Il pourrait jouer avec les détonations, il pourrait nous faire des gros effets, justement, théâtraux. Il évite tout ça. Il y a une petite musique très discrète. Il y a le bruit de la ville qui est là en permanence, mais qui est extrêmement doux. Et sa grande force et son seul but, c'est de faire entendre ces mots qui nous livrent une réalité sans chercher à nous influencer. Et ce travail-là est beau, je trouve, de la part de l'auteur et du metteur en scène réuni.
Je vous interromps, mais sinon, on ne pourra même pas évoquer la dernière pièce, Jacques.
Pardon, donc, très brièvement, je voulais dire que moi, c'est une pièce qui me choque parce qu'elle ne prend pas parti, parce qu'elle renvoie dos à dos l'occupant et l'occupé.
C'est vrai qu'elle refuse de prendre parti, oui.
Je la trouve, pardon, je vais employer un mot un peu fort, mais je la trouve lâche, cette pièce, par rapport au conflit.
Mais pourquoi vous dites ça?
C'est son point de vue.
Parce que c'est son point de vue,
mais c'est son point de vue. Justement, je pense qu'on ne peut pas renvoyer dos à dos les occupants et les occupés. Mais enfin bon, ça c'est un point de vue
qui m'engage. C'est le refus d'un théâtre engagé.
Par ailleurs, je trouve que les trois voix sont malheureusement trop indifférenciées et on sait assez mal quand Rachida Brakni prend un personnage et prend l'autre. Et c'est une comédienne merveilleuse, elle a une beauté extraordinaire, d'une noblesse éblouissante, mais elle est très bridée et je pense qu'elle pourrait être beaucoup plus émouvante. Le texte, moi je le trouve un peu plat.
Fabienne, un mot.
Moi je trouve le texte un peu faible aussi, un peu caricatural, surtout en ce qui concerne l'américaine. Mais moi je trouve intéressant justement qu'ils ne prennent pas parti. Mais Massimo...
Stefano Massini.
Stefano Massimo, maintenant...
Massini.
Massini, pardon. Qui Massino, dirige Massini. Le piccolo de Teatro de Milano. C'est un peu notre écrivain politique à tout faire. Il a fait un spectacle sur Anna Politkovskaya, il a fait un spectacle, on lui passe des commandes sur l'écologie.
Mais non, c'était très bien, c'était pas mal, Terre Noire montée par Irina Brooke, c'était même
Terre
très Noire,
bien. Terre Noire, c'était un petit peu caricatural et simpliste aussi. Mais en revanche, je trouve Rachida Brakni éblouissante, notamment, surtout dans les scènes où elle ne parle pas, où elle figure. Non mais, il n'y a rien de plus difficile.
Elle appréciera.
Il n'y a rien de plus difficile que ne pas parler, et notamment pour figurer la terreur.
Que ça vient.
On dirait le cri de Munch. Elle est prodigieuse. Justement, elle fait passer sur un visage ou sans un mot toutes les expressions. Elle est magnifique.
Armelle.
C'est vrai que Rachida Brakni est magnifique. La remarque de Jacques aussi est très juste. Et d'ailleurs, l'auteur demande normalement que les passages d'une voix à l'autre soient très marqués. Et Arnaud Meunier, par coquetterie, n'a pas voulu. Alors on comprend au bout de quelques phrases, mais il n'y a aucune indication même de changement de régime, de la voix. Elle passe comme ça en toute continuité d'un personnage à l'autre. Et je trouve que c'est très gênant pour le spectateur parce que ça exige une attention forcenée. Ça dure 1h40, 1h45.
Mais c'est tout le point de vue de la mise en scène, Armelle.
Oui, justement. Mais justement, je trouve ça coquet et pas bien pour le spectateur. Mais elle est extraordinaire.
Je croise en un seul lieu avec Rachida Brakni, donc au rond-point. Ça sera à Lons-le-Saunier en avril, à Nice... Ensuite, et au mois de mai, ce sera à Amiens. Juste, vous me dites s'il faut ou non. Ça, je ne l'ai pas vu. En revanche, allez voir Notre Faust, saison 2 de Robert Cantarella aux Amandiers Nanterre, avec Nicolas Maury dans le rôle de Faust. Faut-il y aller, Jacques ?
Écoutez, moi, je n'ai vu qu'un des épisodes sur les quatre, mais je dois dire que je n'y suis pas retourné et je n'y retournerai à aucun prix. C'est grotesque.
Il y avait... Grotesque ?
Ah, mais c'est totalement grotesque. J'ai vu un monsieur Faust à qui on a coupé le zizi, probablement...
Un molosse lui a arraché.
Alors, il est
mais comment vous le savez ?
Parce qu'il porte
des
couches.
Mais parce que c'est comme ça que ça commence.
Il s'en plaint beaucoup, il porte des couches, il est à l'hôpital, il y a du sang partout. Enfin voilà, il y a un avantage à ce spectacle, c'est qu'il n'est pas long. Ça dure une heure. Ce qui est plus long, c'est d'aller à Nanterre pour le voir et d'en revenir. Mais franchement, si vous avez une heure à perdre, pourquoi pas ? Mais enfin bon.
Moi, je suis pas du tout d'accord
Fabienne.
Avec mon camarade. J'ai beaucoup aimé ce Faust-là parce que je trouve, si on compare à Michalik, par exemple, qui fait des choses totalement scolaires dans la narration et dans le récit,
c'est vraiment
ils affirment du bricolage. Ils affirment une écriture enfantine.
Mais pourquoi
une écriture
vous
dites
c'est vraiment
c'est être surpris.
Ah ben oui,
je
sais, vous avez dit que j'aimais déranger.
Mais oui, déranger.
Bon, alors il suffit qu'on vous montre un monsieur en couche-culotte. Bon, d'accord.
Eh ben oui, Jacques, ça me fait plaisir de
voir un monsieur en couche-culotte.
Fabienne.
S'il ne tient qu'à ça.
Mais non, dans la narration.
Que de révélation.
Et ça éveille.
Vincent, tu veux bien me dévouer ?
Un plaisir.
Je t'attendais dans le Pampers la prochaine fois.
Un plaisir d'enfant. Et c'est formidable d'avoir adapté le code de la série télé pour
les enfants adorent voir leurs parents avec les sexes coupés. Ils adorent ça.
Armelle.
Mais il n'y a aucun code de série télé là-dedans, Fabienne.
C'est ce qu'ils prétendent. Parce que vous n'en regardez pas assez, Armelle, des séries d'été.
Mais
des séries télé.
Fabienne, c'est pas
avec
vrai.
Le rythme cut, le montage cut, des scènes qui partent.
C'est la quéquette.
Beaucoup de situations.
Enfin, mesdames, reprenez-vous.
Franchement...
Je crois que je vais y aller. Hein.
Tu m'avais pas dit.
Allez, soyez sensibles à de nouvelles formes de narration. Voilà.
Oh ben au secours, au secours.
Vincent, un mot.
C'est très difficile de se prononcer sur ce spectacle parce qu'il fait 4h30 et on le verra dans plusieurs
jours. Comment ça, il fait 4h30 oui. Il y a dit 1h.
Non, parce qu'il y a une intégrale.
En soi, il
c'est une série en épisode.
Mais en ce moment,
à plusieurs auteurs.
En ce moment, il se découpe en tranches. N'y voyez aucune
allusion.
Et donc, on va à Nanterre. Ça demande 1 heure pour aller à Nanterre. Et on voit 1 heure de spectacle. Donc, on ne voit qu'une petite tranche de ce Notre Faust. Et ce que j'ai vu, je trouve que le programme est mensonger.
Non, là aussi, on
nous parle d'une série théâtrale. On dit, imaginez
le suspense d'une
série.
Aussi, on s'ennuie.
Il parle du suspense d'une série dont on ne peut plus décrocher. Non, ils prennent tous la pause pour l'instant, mais on ne peut pas encore juger le spectacle.
Les gens vont courir aux Amandiers Nanterre. Tu me diras, ce qui est drôle, c'est que ça se termine le 1er avril. et c'est Notre Faust, saison 2. Allez, un conseil pour terminer cette émission va commencer avec Vincent.
Écoute, un spectacle qui vient de se terminer à Paris, qui avait été créé à Avignon l'été dernier, qui a énormément bougé, qui est actuellement, je trouve, formidable. Il est partout, là, en France, et il reviendra à Paris en juin au Montfort. C'est Interview. C'est Nicolas Truong qui, avec ses camarades Nicolas Beauchaud et Judith Henry, deux comédiens...
Qui avait été créé à Avignon.
Qui l'avait créé là, l'été dernier à Avignon, mais ça a beaucoup bougé depuis. Ils sont allés interviewer plein de gens qui pratiquent plutôt très bien l'interview. Je pense à Depardon et à sa femme preneuse de son, Claudine Nogaret. Je pense à Florence Omna, par exemple, à Jean Hatzfeld. Ils les ont interrogés. Ils nous rapportent une partie de cette matière-là, tout en jouant aussi des grands entretiens, comme Duras avec Pivot. Il y a des moments extrêmement drôles. Et puis, cette question qui court tout au long du spectacle, qui est comment on fait pour obtenir une parole. Ça semble facile de poser des questions, ça ne l'est pas. Et qu'est-ce que c'est qu'un entretien? Qu'est-ce que c'est que poser une question, passer quelqu'un à la question? Je trouve ça remarquablement d'une part festive, joyeux et très intéressant.
Le conseil Interview, ça d'Armel.
Alors, à La Talente, un spectacle que j'ai vu au Théâtre 71 de Malakoff, qui s'appelle Palestro, du nom d'un épisode tragique de la guerre d'Algérie en 1956. Un guet-apens terrible où sont tombés beaucoup de jeunes appelés et puis il y a eu des représailles, enfin. Et c'est une interrogation sur la guerre d'Algérie, sur en quoi elle nous touche encore, en quoi chacun est blessé des deux côtés. C'est très très bien. C'est très bien joué, notamment par Luc-Antoine Diquero,
titre
Palestro.
Palestro.
Voilà.
Je conseille, ou plutôt reconseille, moi et François Mitterrand d'Hervé Le Tellier, qui a fait un malheur au rond-point et qui est maintenant au théâtre de la Pépinière, juste à la fin du mois de mai, avec Olivier Broche dans le rôle de ce simple citoyen, Hervé Laugier, qui écrit à tous les présidents de la République depuis Mitterrand, donc Mitterrand, Chirac, Sarkozy, jusqu'à Hollande, et qui reçoit chaque fois la même lettre type, qu'il prend évidemment pour une réponse personnalisée. C'est à la fois très drôle, très émouvant, et évidemment, on se demande, puisqu'il y a en fond de scène, il y a les photos de tous les présidents, on se demande qui en met Laugier, à qui plutôt il va envoyer un nouveau courrier. Le livre d'Hervé Le Tellier, qui est formidable, paraît aux éditions Lattès. Le conseil de Fabienne.
Moi, ce sera Les Bas-fonds de Maxime Gorky, qui se donne actuellement aux Gémeaux à Sceaux dans une mise en scène d'Éric Lacascade. Alors, la pièce, on la voit pas si souvent. C'est une plongée dans la Russie pré-révolutionnaire, puisqu'elle a été écrite en 1902. Et c'est des miséreux, des paumés, des rejetés qui ressemblent à nos SDF d'aujourd'hui. Et Éric Lacascade a su montrer ça. Il connaît le théâtre russe par cœur, avec une humanité et une violence dans les passions entre les êtres qui est assez bouleversant.
Jacques.
Eh bien, Souvenir l'été dernier de Tennessee Williams se donne encore quelques jours à l'Odéon, mais c'est pas ça que je conseille. Je conseille.
Alors, c'est pas la peine de le dire. Alors.
Non, mais parce qu'il y a une double actualité. Il y a une double actualité. C'est un livre de Christophe Pellet, l'auteur d'Eric von Stroheim, mais c'est un livre consacré à Tennessee Williams dans la collection Isaac Land, et c'est très 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 bien. C'est un très beau travail qu'il a fait sur le théâtre de Tennessee
aux
Williams.
Éditions.
La vie et l'œuvre, Isaac Land.
Tous ces conseils, vous les retrouvez bien sûr sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Armel Elio, Fabienne Pascaud, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir au Charles Trenet à la technique, Olivier Dupré, Guillaume Ledu et Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde. Vous notez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, c'est le jeudi 30 mars. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de Radio France pour deux émissions. L'une consacré au cinéma, l'autre à la littérature. On parlera de films dans une semaine à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.